France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La France déconfinée et le monde de la culture en colère. C'est sans attestation hier que des milliers de professionnels du secteur de la culture ont pu manifester alors qu'était mis en place un couvre-feu sur le territoire. Des rassemblements donc un peu partout en France contre les décisions sanitaires du gouvernement qui obligent les cinémas, théâtres, musées, salles de spectacle à rester fermés au moins jusqu'au mois de janvier. 5 théâtres parisiens saisissent le Conseil d'État en urgence. Sur le front sanitaire, plus de 11 500 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés ces dernières 24 heures en France. Un taux de positivité qui reste stable à 6,2%, alors que le nombre de patients hospitalisés à cause du virus, lui, continue de baisser. Ces chiffres pourraient toutefois évoluer dans la semaine qui vient. À moins d'une semaine de Noël, les dépistages s'accélèrent. La région Auvergne-Rhône-Alpes annonce ainsi le début d'une campagne de dépistage massif et gratuit. Elle va durer cette campagne une semaine avec 1300 centres de prélèvement dans la région et plus de 2 millions de tests antigéniques commandés. Une opération critiquée déjà par l'opposition au Conseil régional. Elle parle d'un coup de communication qui fait de l'ombre au centre de dépistage déjà déployé dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30 dans une demi-heure. Sachez par ailleurs que plus au sud, à Marseille, le siège de maire de la ville est vacant. Hier, Michel Rubirola a démissionné pour des questions de santé, explique l'écologiste, 6 mois seulement après son élection. Elle souhaite laisser sa place à son premier adjoint, le socialiste Benoît Payan, mais ce sera au conseil municipal de Marseille de trancher sous 15 jours maximum. La prochaine réunion est prévue lundi prochain et elle s'annonce déjà houleuse. Enfin, notez les félicitations tardives de Jair Bolsonaro pour Joe Biden. Le président du Brésil a attendu l'officialisation des résultats de la présidentielle aux États-Unis pour se dire prêt à travailler avec le successeur de Donald Trump. C'était le dernier dirigeant du G20 à lui exprimer ses vœux.
En écho au débat provoqué en France par la loi Sécurité globale et la multiplication des révélations de violences policières, nous vous proposons cette semaine une nouvelle série sur le maintien de l'ordre.
Culture Monde, Florian Delorme.
On va se demander comment, ailleurs dans le monde, fonctionnent les polices et le rapport qu'elles entretiennent à l'usage de la force. Depuis la réforme des polices aux États-Unis jusqu'aux dérives de la police nigériane, en passant par l'utilisation de l'institution policière à des fins politiques, sans oublier évidemment l'Europe, où il y a peut-être quelques pays dont on pourrait s'inspirer, même si la situation est loin d'être parfaite.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Plus que de la grande musique, de la musique pour grandir. Plus qu'une voix, une voix pour aller plus loin. Depuis 2007, la maîtrise de Radio France permet à des enfants de la ville de Bondy de grandir en musique en pratiquant au sein de leur école l'excellence du chant choral. Aux côtés de la Fondation Musique et Radio Institut de France, aidez-les à poursuivre cette aventure unique. Faites un don pour la maîtrise de Radio France à Bondy dès aujourd'hui sur radiofrance.com. Plus qu'un don, la possibilité de révéler leur don.
Il est 6h03 et c'est l'heure sur France Culture du Monde Vivant, chronique de Bruno David, autour ce matin de l'éléphante.
Sur le parvis du musée d'Orsay, l'éléphant sculpté par Frémiet, trompe dressée, se trouve pris au piège. En écho, parmi les statues de la splendide nef du musée, trône un autre éléphant, un éléphant en majesté et pas n'importe quel éléphant. Il s'agit de Parky, l'éléphante arrivée à la ménagerie du Jardin des Plantes en 1798. Morte en 1816, Parky a été naturalisée au muséum, exposée un temps devant le public, avant de rejoindre les réserves, d'où elle vient de ressortir, pour devenir l'icône de la nouvelle exposition du musée d'Orsay, « Les origines du monde, l'invention de la nature au XIXe siècle ». Parky est une femelle d'Elephas maximus, autrement dit un éléphant d'Asie. Le cartel qui accompagne la bête dans l'exposition le précise clairement. Mais les visiteurs ne manqueront pas d'être perplexes, car cette éléphante arbore un attribut plutôt masculin. Y aurait-il erreur ? Ce ne serait donc point Parky, dont on sait avec certitude qu'elle était une éléphante ? Pas si simple. Un peu de biologie pour commencer l'enquête. Chez les éléphants d'Asie, femelles et mâles diffèrent sur plusieurs points, ce que l'on nomme dimorphisme sexuel. Les femelles sont un peu plus petites que les mâles, leurs défenses sont courtes, voire totalement absentes, elles sont même d'une densité un peu différente de celle des mâles. Il faut dire que les femelles ne les utilisent pas pour combattre. Si l'on considère certains détails anatomiques, l'os frontal est un peu plus large et la crête pariéto-occipitale, en haut du front, plus marquée chez les femelles. Autre caractère inattendu, les mâles possèdent des glandes sur le côté de la tête, les glandes temporales, qui sécrètent une phéromone, la frontaline. En période de reproduction, ils en sécrètent beaucoup, ce qui finit par altérer irrémédiablement la texture de leur peau à cet endroit. Point de cela sur notre spécimen. Notre parquet est bien une femelle. Mais une femelle qui aurait pu être modifiée par les taxidermistes du 19e siècle. À cette époque, les mâles tenaient le haut du pavé, et il convenait d'impressionner les visiteurs du muséum, quitte à tricher un peu. Les défenses de parquet sont trop longues pour celles d'une femelle. Mais leurs racines étant profondes, il est possible de les faire coulisser hors de leur fourreau pour rendre l'animal plus imposant. Quant à l'organe génital, les lèvres de la vulve ont tendance à tomber et à devenir fibreuses avec l'âge. Le volume de ce qui émerge sous le ventre de l'animal est donc compatible avec une femelle. De quoi permettre à nos taxidermistes inspirés de remodeler tout cela en un cylindre d'apparence plus masculine. L'invention de la nature, sous-titre de l'exposition, est vraiment pertinent. Certains taxidermistes du 19e siècle jouaient ainsi avec la réalité, un peu comme d'autres, lors de la dernière présidentielle américaine. Pas si étonnant si l'on se souvient que l'emblème du Parti républicain est un éléphant, et même un éléphant d'Asie, si l'on en croit un dessin de 1874.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le réveil culturel. On garde la forme, on garde le sourire, même si effectivement ni les musées ni les salles de cinéma ne vont rouvrir aujourd'hui ni cette semaine d'ailleurs, il faudra patienter. Néanmoins, la passion cinéma, elle peut se pratiquer à la maison. Par exemple, les films de Federico Fellini, on peut les voir dans leur version restaurée, puisque l'année dernière, à l'occasion du centenaire de la naissance du maestro, on a restauré la plupart de ses chefs-d'œuvre, comme la Dolce Vita ou 8,5. Et aujourd'hui, je reçois un écrivain italien qui est allé très loin dans l'hommage à Fellini. Marco Caramelli publie un beau désordre dans lequel il se glisse dans la peau du grand réalisateur italien dans la période où il réalise 8,5 et entre 8,5 et la Dolce Vita. Marco Caramelli est mon invité aujourd'hui.
Le réveil culturel, mercredi, cinéma.
Bonjour Marco Caramelli.
Bonjour.
Comment on se sent quand on sort de ce livre, quand on a été dans la peau de Federico Fellini, qui plus est dans une des périodes les plus importantes de sa vie?
Eh bien, très bien, puisque en fait, je me suis glissé et dans la peau de Federico Fellini, et dans la peau de Marcello Mastroianni, et dans la peau de Guido Anselmi, qui est donc le personnage de 8,5, que j'ai appelé Massimo Barbiani dans mon roman
documenté, même si ça reste une fiction. Très documenté. Alors, d'ailleurs.
Très documenté, oui.
En depuis fait, le titre, hein, on peut partir du titre, Un beau désordre, c'est le titre que devait avoir ce film.
La bella confusione qui, en fait, pourrait se traduire, devrait se traduire plutôt en français par la belle confusion, car le terme italien confusione a plusieurs sens en français, ça peut être donc le désordre, mais aussi la confusion au sens de confusion mentale. Et donc, c'est vrai que...
Ça marche pour les deux sens, hein, dans ce livre.
C'est ça. Évidemment, le personnage principal est aux prises avec une confusion générale. Et c'est vrai qu'en français, on a préféré désordre, un beau désordre. Esthétiquement, ça nous paraissait meilleur qu'une belle confusion. C'était moins joli comme titre.
Alors, avant de parler de votre roman, qui est votre premier roman, Marco Caramelli, parlons de votre rapport avec ce film. Je suppose que vous n'étiez pas né à l'époque de la sortie de ce film.
Oui, je n'étais pas du tout né, car l'information, je ne sais pas si elle vous a échappé, mais j'ai le même âge que le personnage du film et du roman, donc 43 ans. Et donc oui, j'ai découvert bien plus tard le cinéma de Fellini. Et je l'ai connu, je l'ai découvert avec tout le grand cinéma italien, donc un peu plutôt sur autour de 25-30 ans. Mmh. Bon, j'avais entendu depuis toujours l'existence de Fellini, mais je m'y suis intéressé un peu plus tard et plutôt en achetant des DVD.
Okay.
Donc j'ai découvert tous les grands cinéastes italiens dans cette époque, et parmi ceux de Fellini, ce film-là a tout de suite eu sur moi un impact particulier.
Pourquoi justement Marco Caramelli?
Pour différentes raisons. Il y a déjà l'histoire qui me touche particulièrement, et à la différence des autres films, les personnages, je m'identifie énormément au personnage de Guido, ce qui par exemple n'est pas du tout le cas du personnage de Marcello dans La Dolce Vita. Et j'ai un attachement particulier au personnage de Louise, à la femme du personnage principal. Il y a Claudia Cardinale, qui est évidemment mon actrice préférée depuis toujours. Mais encore une fois, ce personnage particulier dans ce film me touche particulièrement. Et puis, il y a ce rapport aux femmes, puisque c'est un film qui parle du rapport d'un homme avec sa femme, et puis avec sa maîtresse, et puis avec...
Comment résumeriez-vous le 8,5 Marco Caramelli?
Alors, le film démarre avec un réalisateur qui est, disons, connu, et qui, parce qu'il est touché par un stress très particulier, il fait un malaise et on lui prescrit une cure thermale. Donc, il se retrouve à cette cure thermale, mais comme il a signé un contrat avec un producteur pour un nouveau film et que la production a déjà démarré, le producteur dit bon, on peut pas prendre du retard sur le programme, donc il amène toute la production à l'hôtel où loge le réalisateur pour se reposer. Et très vite, eh bien, il ne pourra pas se reposer, puisque il fait venir sa maîtresse, et puis il fait venir sa femme, et puis la femme dont il est amoureux, il la fait venir aussi parce qu'il lui propose un rôle. Et donc, on se retrouve avec ces deux éléments importants du film, qui sont le rapport du personnage principal avec les femmes, la construction d'un film, puisque évidemment on voit les coulisses de la fabrication d'un film.
Avec... C'est une réflexion aussi sur la panne d'inspiration aussi.
Oui, puisque effectivement c'était le malaise est venu du fait que ce réalisateur donc a signé un contrat. Comme il a eu pas mal de succès avec le film précédent, on imagine que le producteur lui a signé l'avance sans trop demander de garantie. Et donc là, ce réalisateur se retrouve avec une panne d'inspiration, alors que le film doit se faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'inspiration va revenir? Est-ce qu'on laisse tout tomber? Etc., etc.
Dans votre roman, Un beau désordre, vous mélangez l'histoire de ce film avec l'histoire du film.
J'ai réalisé deux travaux en fait d'adaptation, puisque la première chose que j'ai réalisée, donc c'est une adaptation du film au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'auteur. Je ne me suis pas contenté, comme c'est le cas pour ce qu'on appelle les novélisations, je ne me suis pas contenté de prendre scène par scène et de décrire les scènes. Non, j'ai vraiment... il y a des scènes que j'ai construites à 100% qui ne sont pas dans le film. Il y a d'autres scènes du film que j'ai supprimées. Et j'ai aussi ajouté ce que l'on peut faire en littérature et que l'on ne peut pas faire en cinéma, qui est par exemple les pensées des personnages. Donc, par rapport à une scène, j'ai imaginé ce que les personnages pouvaient penser. Donc ça, c'est le premier travail que j'ai fait d'adaptation. Et puis, il y a un autre travail que je trouvais intéressant, c'est que comme 8,5 est considéré... Fellini a toujours nié le côté autobiographique du film. Il semble évident quand on connaît l'histoire du réalisateur. Donc, c'est un film autobiographique auquel j'ai ajouté d'autres éléments autobiographiques. D'où le fait que j'ai dû me documenter énormément. Alors, c'est vrai que je l'avais fait depuis des années, puisque à chaque fois que j'aime un écrivain ou un réalisateur, j'ai tendance à me documenter largement. Je lis toutes les interviews, je regarde les vidéos. S'il y a des documentaires, je les regarde. Donc, je connaissais déjà sa vie. Et peut-être le fait de la connaître, ça m'a donné cette idée d'intégrer, de mélanger en fait des éléments de sa biographie aux éléments de la biographie, mais qui ont été inséré par Fellini lui-même.
C'est-à-dire fictionné par Fellini lui-même, puisque jusqu'au bout, il refusera de dire que c'est un film autobiographique.
C'est ça.
Un extrait de 8,5.
Je suis là. Voulez-vous que nous parlions du film ?
Oui, bien sûr.
Bon, vous me direz ensuite si vous jugez que je dois montrer mes notes à votre producteur. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus entre nous.
Non, 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 c'est moi qui ai demandé qu'on vous consulte.
Eh bien, une première lecture, c'est très confus. L'absence d'un thème majeur, ou si vous préférez, d'un argument philosophique...
Vous ne voulez pas vous asseoir ?
...fait du film une suite d'épisodes absolument gratuits, qui ne manquent d'ailleurs pas d'être divertissants dans le cadre de leur réalisme ambigu. Mais on se demande ce qu'ont voulu dire les auteurs. Veulent-ils nous obliger à penser ? Veulent-ils nous faire peur ? La composition du début à la fin manque d'envolée poétique. Excusez ma brutalité, mais si la démonstration était encore à faire, cela prouverait que le cinéma est en retard de 50 ans sur les autres arts.
Voilà. Un extrait du film de Fellini, un des classiques de Fellini, 8,5. Généralement, quand on lit un livre qui nous plaît, on a tout de suite ce réflexe de dire « mais quel beau film il fera !» Et généralement, les bons romans se transforment en films, bons ou mauvais, ça c'est un autre débat. Là, ce que vous fait mon invité ce matin, Marco Caramelli, c'est exactement le contraire. Il est parti d'un film, c'est un film qui lui a inspiré un roman. Alors, ce roman, Un beau désordre, édité chez Robert Laffont, a une vraie partie documentaire, hein, parce que il y a quelques informations qui sont vraiment réelles, il y a des anecdotes qu'on connaît, on pourra pas faire d'ailleurs, on peut pas tracer une frontière entre ce qui s'est réellement passé, ce que Fellini a bien voulu dire autour de son film, et ce que vous inventez en tant qu'écrivain, Marco Caramelli.
Oui, c'était un vrai challenge en réalité, puisque c'est à partir des premières personnes qui ont lu le manuscrit, mon éditrice, l'attaché de presse et puis d'autres personnes, que je me suis rendu compte qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à faire la différence. Donc pour moi, c'est une grande réussite.
De la première page, vous êtes dans la peau de Federico Fellini.
Oui, c'était important pour moi de choisir la première personne. Mm-hmm. Parce que je pense que ça rend toute la lecture beaucoup plus vivante. On se plonge vraiment dans la peau du personnage. Et justement, parce que c'est un personnage, le réalisateur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup étudié, il y a aussi, dont je disais, je le connaissais déjà depuis des années, mais pour la préparation de ce livre, j'ai fait un travail documentaire très important. Donc vraiment, je me sentais prêt à pouvoir
interpréter son rôle
complètement, oui, et ouais. Pouvoir réfléchir ce qu'il aurait pensé. Alors, c'est vraiment un double jeu, puisque je me suis mis dans la peau plus précisément du personnage de Guido Anselmi.
Donc le double fictionnel de Fellini.
C'est ça. Donc il y a un double jeu de miroir qui fait que il a fallu que je m'imprègne du personnage du film, puisque le film je l'ai vu aussi peut-être plus de 10 fois, du réalisateur Fellini, et j'ai mélangé tout ça, j'ai mis des choses personnelles également pour créer un nouveau personnage qui est un mélange de tous ces personnages.
Et ça donne un roman, un beau roman, une adaptation littéraire d'un des plus grands films de Federico Fellini. Mais dites-moi, Marco Caramelli, tous ces thèmes véhiculés par ce film, c'est-à-dire questionnements sentimentaux, rapport aux femmes, dilemmes créatifs, est-ce qu'ils ne sont pas datés ?
Je crois que la relation des hommes avec les femmes, ou plus généralement les relations de couple, les problématiques d'un couple qui perd pied, l'intervention d'une maîtresse, etc. Je pense que à peu près 90% de la population française et mondiale est concernée aujourd'hui, au jour que je vous parle, par ces questions-là.
De la même manière qu'en Italie dans les années 60, au début des années 60.
Oui. Voilà.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Nous sommes avec Marco Caramelli ce matin, qui publie Un beau désordre et qui revient donc sur le tournage du film 8,5, le chef-d'œuvre de Federico Fellini, d'ailleurs qui est considéré comme un des plus beaux films de tous les temps. Marco Caramelli, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des petits Fellini dans l'Italie d'aujourd'hui?
Certainement que non.
Pourquoi certainement que non?
Alors moi je fais partie des personnes qui sont un peu nostalgiques de la
d'une la période qu'ils n'ont pas connue. Aussi un peu, ouais.
Mais c'est vrai que quand on voit serait-ce que des documentaires ou des films de cette époque-là, les vêtements étaient plus beaux, l'architecture était plus belle, les automobiles étaient, enfin il y avait une beauté généralisée. L'art à cette époque-là a eu un foisonnement dans tous les domaines qui me semble difficile de retrouver aujourd'hui un tel foisonnement, mais c'est la même chose pour le rock, vraiment tous les...
C'est un nostalgique, quoi.
Totalement. Mais pour répondre à votre question, le réalisateur italien que l'on a un petit peu rapproché de Fellini, et qui d'ailleurs a rendu hommage à Fellini quand il a reçu son Oscar du meilleur film, c'est Paolo Sorrentino. Surtout dans le film La Grande Bellezza, qui a reçu l'Oscar du meilleur film étranger, il y avait énormément de clins d'œil au travail de Fellini. Fellini, aussi dans Youth qu'il a réalisé quelques années après. On retrouve une station thermale, donc il y a des petits clins d'œil.
Même si c'est un film américain. Oui. Ouais.
C'est le réalisateur qui est considéré un peu comme le fils spirituel de Fellini en Italie.
Alors pardonnez-moi de vous poser encore une autre question pour spécialiste, spécialiste du cinéma italien. Vous savez pourquoi le cinéma italien traverse une telle crise très longue, c'est-à-dire depuis les années 80, depuis la fin de la comédie à l'italienne, mis à part quelques exceptions, on n'est plus autant emballé par le cinéma italien. Comment vous expliquez cette crise?
Je dirais qu'il y a eu effectivement un gros vide, on va dire, années 80-90. Dans ce vide-là, émergeait comme exception Nanni Moretti.
Bien sûr, ouais.
Et depuis les années 2000, quand même, il y a un retour avec Matteo Garrone, des gens comme ça, Paolo Sorrentino. On considère quand même depuis une bonne dizaine d'années, le cinéma italien est revenu à un niveau...
Vous allez les voir, ces nouveaux films?
Quelques-uns. Je suis oui, assez souvent les meilleurs. Je me documente sur chaque fois qu'un film, on en parle pour sa qualité. J'essaye d'aller les voir.
Oui. On entend dans votre voix que vous êtes d'origine italienne, Marco Caramelli, et même votre nom. Vous venez d'où?
La région de Naples, et plus précisément une ville qui s'appelle Montesarchio, qui est à une cinquantaine de kilomètres à l'intérieur des terres par rapport à Naples.
Alors comment est née votre cinéphilie?
Je peux identifier un moment particulier. Je dirais que c'est une jeune femme que j'ai connue quand j'avais à peu près 27-28 ans, qui était ma petite amie de l'époque, qui était d'ailleurs marocaine. Et donc, en me connaissant, elle a dit « Ah, tu es italien, tu dois connaître le grand cinéma italien. » Et moi, j'étais très gêné parce que c'était pas du tout le cas. « Ah, mais comment ça ? Rossellini, Antonio, etc. » Elle m'a dit « Ah, mais il faut que je te fasse connaître. » Elle avait toute une collection de ses grands films chez elle. Et donc, à partir de ce moment-là, chaque fois que nous voyons, moi, je lui préparais un dîner italien. Et après le dîner...
Elle vous préparait un film italien.
C'est ça. Et donc, c'est comme ça. C'est grâce à une jeune femme que j'ai découvert tous les grands cinéastes de cette époque-là.
Vous êtes plus passionné par le cinéma que par la littérature ou... Ça marche ensemble pour vous, Marco Caramelli? C'est la question que je vous pose à l'occasion de la sortie de votre premier roman, donc un beau désordre.
Je lis plus que ce que je regarde de films, ce qui est peut-être assez... Je ne suis pas un glouton de films comme certains qui regardent des films en grande quantité. Moi, je dis souvent que je ne suis pas un bon public. C'est-à-dire, je préfère regarder peu de choses de qualité. Même les romans, je ne dévore pas les romans. D'ailleurs, c'est un terme que je trouve absolument obscène.
Dévorer
des romans. Enfin, j'ai pas pour moi. On dévore, une carcasse, mais pas du tout quelque chose de bon. On dirait pas. Je suis allé dans un très bon restaurant et j'ai dévoré les plats qu'on m'a. Enfin, je trouve que le terme est très mal. Choisi, je n'aimerais pas qu'on me dise j'ai dévoré ton roman, je préférais qu'on me dise j'ai dégusté, j'ai savouré, mais dévoré, je trouve que c'est totalement péjoratif. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui dévore les choses, je préfère lire que regarder des films, parce que j'ai l'impression que ça me nourrit davantage en fait. Regarder des films, j'ai pas l'impression d'apprendre grand chose, alors que quand je lis, j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses. Ça m'intéresse davantage.
Pour terminer, rendre un dernier hommage à Fellini, mis à part 8,5, mais aussi la Dolce Vita. Il est aussi question de Dolce Vita dans votre roman Un beau désordre.
Oui, alors parmi les petits jeux que j'ai réalisés en écrivant ce roman, j'ai inséré une scène de la Dolce Vita et pas n'importe laquelle. Mais en fait, il y a un moment donné dans 8,5, pour ceux qui l'ont vu, c'est tout au début du film, le personnage principal arrive à la source et puis il vient chercher son eau bénite, ce qu'on appelle en italien l'acqua santa, j'ai traduit par eau bénite, et il a une apparition, donc il a Claudia Cardinale qui lui apparaît comme un mirage. Pendant que j'écrivais, je me suis dit, tiens, il faudrait que je raconte comment ils se sont connus. Et j'ai eu cette idée... intéressant de utiliser une scène de la Dolce Vita pour illustrer la manière dont
la scène de la Dolce Vita
pour illustrer la manière dont le protagoniste aurait rencontré du coup j'ai créé une petite histoire qui s'ajoute à l'histoire du film et de la réalité.
Vous retournez souvent en Italie ?
J'y retournais régulièrement tant que ma mère y vivait, ce qui n'est plus le cas depuis qu'elle a pris sa retraite et qu'elle a souhaité venir se rapprocher de ses enfants en France. Donc avant, j'allais la voir tous les Noëls et tous les étés.
Vous êtes du genre à passer par la fontaine de Trévise, par exemple, quand vous êtes à Rome ou pas forcément ?
Ouais, je ne suis pas particulièrement fétichiste. Non, ça...
Le Réveil culturel de Toufik Hakem est disponible pour le podcast sur franceculture.fr ou sur l'application Radio France.
Marco Caramelli, Un beau désordre, c'est édité chez Robert Laffont. Merci d'être passé ce matin nous en parler.
Merci à vous de m'avoir invité.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Suis-je amoureux ? Oui, puisque j'attends.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
Les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes dissèquent notre cœur et ses tourments entre plaisir du texte et langage qui se frotte contre la peau. Attente, je t'aime, jalousie, scène de ménage, quatre fragments à écouter les yeux fermés.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Mais à quoi ressemble donc l'univers des romans SF de l'écrivain Philippe K. Dick ?
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Eh bien, on y trouve des singes qui prédisent l'avenir, des robots qui ont tout pour être humains ou des virus qui empêchent les gens de se voir. Ah non, pardon, ça, j'ai dû le lire dans la presse. Toujours est-il que de Philippe K. Dick, eh bien, nous parlons dès lundi dans la compagnie des œuvres.
Du lundi au jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La stratégie vaccinale du gouvernement est en débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Débat symbolique, l'exécutif, vous l'entendrez, veut montrer qu'il prend le temps de lever les doutes et les inquiétudes à propos de ce futur vaccin. Et cela alors que les campagnes massives de dépistage du Covid-19 sont organisées, la dernière en date, aujourd'hui, dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Parlement hongrois adopte un ensemble de mesures anti-LGBT, les craintes d'Amnesty International dans cette édition. Et puis nous y aux États-Unis où Google réagit au plan européen qui a été présenté hier, un plan qui vise à limiter l'influence des grandes plateformes du numérique sous peine de sanctions. Le Premier ministre français va donc présenter aujourd'hui, cet après-midi, aux députés la stratégie vaccinale imaginée par le gouvernement. Une stratégie en trois phases. D'abord les personnes âgées, les personnes fragiles et personnel soignant, et puis le reste des Français, pas avant le printemps prochain. Le processus sera soumis à validation par les autorités scientifiques. Et cette présentation aujourd'hui à l'Assemblée devrait permettre de sonder en quelque sorte la population, Stéphane Robert.
Le Premier ministre Jean Castex, cet après-midi à l'Assemblée, ne va pas dire grand-chose de plus que ce qu'il a déjà dit début décembre sur la stratégie vaccinale du gouvernement. Pour Marie Lebec, première vice-présidente du groupe La République En Marche, il s'agit surtout de tenter de rassurer les députés sur la manière dont tout ça va se dérouler et au-delà, par le truchement des députés, de tenter de rassurer les Français.
C'est un débat qui a avant tout une portée symbolique, c'est d'avoir un discours fort, je crois, à destination des Français sur la nécessité et les impératifs de se faire vacciner. J'attends maintenant surtout de voir ce que les oppositions vont dire, parce que je crois qu'en termes de confiance et de transparence aussi dans ce vaccin, le discours politique sera fondamental.
Même si les députés paraissent globalement plus allants que les Français sur la vaccination, ils vont poser des questions et exprimer leurs doutes et leurs craintes, à l'image de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier sur BFM TV.
Ce vaccin, eh ben, il m'inquiète. Il résulte d'un procédé qui n'est pas celui qu'on connaissait jusqu'à présent. On a tous découvert qu'il existait des ARN messagers. On croise tous les doigts que ce soit la bonne idée. Mais en attendant, on n'en est pas sûr.
Même crainte chez Marine Le Pen. La semaine dernière sur France Inter, elle a déclaré ne pas souhaiter se faire vacciner tout de suite.
Non, je préfère attendre un vaccin traditionnel en ce qui me concerne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut quand même dire les choses, encore une fois, aux Français, et chacun prendra sa décision en responsabilité. C'est qu'on n'a pas de recul.
Les discussions cet après-midi s'apparenteront surtout à un exercice d'explication et de pédagogie du chef du gouvernement, à la suite de quoi chaque groupe politique fera connaître sa position et le débat sera suivi d'un vote non contraignant.
Voilà donc pour le parcours symbolique de cette stratégie vaccinale en France. En amont des vaccins, l'heure est toujours sur le terrain au dépistage et plus encore à 8 jours du réveillon de Noël. Ainsi, pour prendre les devants, la région Auvergne-Rhône-Alpes propose à partir d'aujourd'hui et pendant une semaine une nouvelle campagne de dépistage massif et gratuit. Les 8 millions d'habitants de la région sont concernés, mais l'opposition sagace, elle dénonce une opération de communication de la part du président de la région, Laurent Wauquiez. Explication de Mathilde Imberti.
Il visite pas moins de 3 sites en une seule matinée pour lancer sa campagne de dépistage. Je veux une région en avance, on a trop été pris de court dans cette crise, argumente l'hyperactif Laurent Wauquiez, candidat à sa réélection en juin. L'opération lancée en solo a été torpillée dès son annonce par les voisins lyonnais et villeurbanais. C'est une communication de campagne électorale pour le président de la métropole de Lyon. Le maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, craint la confusion.
Ce qu'on pointe, c'est que nos dispositifs actuels qui ont été mis en place depuis le mois d'octobre sont toujours actifs et qu'aujourd'hui, ils ont une capacité d'accueil extrêmement importante. Donc, on s'interroge juste sur, en fait, la coordination de ces deux dispositifs. Moi, j'interroge aujourd'hui le fait que, d'un seul coup, il puisse y avoir des collectivités qui prennent des décisions unilatérales. Il ne faut pas créer de confusion et surtout, il ne faut pas donner l'impression que finalement, les centres de décision changent de lieu régulièrement.
Mieux vaudrait tester tout le monde après les fêtes, disent encore les maires non républicains. Le conseil scientifique qu'ils avaient saisi valide une stratégie de dépistage large début janvier. On peut avoir fromage et dessert, rétorque Laurent Wauquiez au front pour sa dernière offensive de 2020.
Mathilde Imberti depuis Lyon pour France Culture. C'est une démission qu'on ne comprend pas. premières réactions des Marseillais après l'annonce surprise hier de leur maire, Michèle Rubirola, 6 mois après son élection. Elle démissionne donc. L'élu écologiste veut laisser la place à son premier adjoint socialiste, Benoît Payan. Elle évoque des raisons de santé qui la limitent dans ses fonctions de maire de Marseille. Le conseil municipal de la deuxième ville de France pourrait nommer un nouveau maire dès lundi. Il a en tout cas 15 jours pour faire un choix. L'opposition souhaite déjà pouvoir proposer un nouveau scrutin aux citoyens. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7h en nous interrogeant surtout sur les fissures dans l'aile gauche à Marseille. La Commission européenne doit annoncer aujourd'hui un plan d'action pour purger les bilans des banques de leurs crédits pourris ou créances douteuses. C'est ainsi qu'on appelle ces crédits dont les mensualités n'ont pas été remboursées depuis 90 jours. L'Europe veut donc nommer des créanciers quand, le même jour, UFC Que Choisir publie un rapport sur la distribution irresponsable à ses yeux des crédits à la consommation par les banques en France. Un rapport qui sort donc ce matin et selon l'UFC Que Choisir, ces crédits à la consommation, on le vend en poupe en pleine crise économique. Mathieu Robin est en charge des questions financières au sein de l'association de consommateurs. Il dénonce l'attitude des banques qui profitent de la faiblesse de certains de leurs clients.
Aujourd'hui, dans le bilan des banques françaises, en 2019, en fait, c'est 9 milliards d'euros de crédit à la consommation qui est impayé. Donc c'est très conséquent, et c'est d'autant plus conséquent quand on le rapporte au nombre de ménages emprunteurs. Et là, c'est 1 000 euros par ménage emprunteur en France, et c'est 10 fois plus qu'en Allemagne. Donc c'est tout à fait conséquent, et quand on regarde dans le détail, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de grandes disparités entre les groupes bancaires. Vous avez notamment chez BNP Paribas, le groupe BNP Paribas, ou le groupe Société Générale, qui vont avoir des taux de défaut du crédit à la consommation qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne française. Ce qui laisse entendre, effectivement, eh bien, des pratiques plus risquées en matière de distribution des crédits. Les banques ont des moyens pour aménager les crédits qui ne peuvent pas être remboursés par les consommateurs. On s'aperçoit aujourd'hui, eh bien, que seulement 30% des crédits qui ne sont pas remboursés, eh bien, font l'objet de ces mesures d'aménagement. Et c'est tout à fait problématique, hein, dans la mesure où il n'y a pas aujourd'hui, bien, de règles qui vont imposer aux banques, eh bien, de s'assurer tout au long de la vie de ce contrat de crédit, le bon remboursement de leurs consommateurs en justement, en les incitant à être davantage proactives, en proposant des aménagements.
Des propos recueillis par Anne-Laure Chouin. Dans l'affaire de l'attentat déjoué du Thalys en 2015, les avocats généraux ont requis hier la perpétuité contre le tireur Ayoub El-Kazani, qui avait été finalement maîtrisé par des passagers. C'est un pas de plus à l'encontre des valeurs européennes de la part de la Hongrie. Son Parlement a adopté hier une série de mesures contre la communauté LGBT. Les couples homosexuels n'ont plus le droit d'adopter des enfants en Hongrie. Il est désormais inscrit dans la constitution du pays qu'une mère est une femme et qu'un père est un homme. Élise Delève a joint à ce propos Sébastien Tuller, responsable de la commission LGBTI, à Amnesty International France. Sébastien Tuller rappelle le plan de relance européen qui doit, dit-il, conditionner le respect de l'état de droit.
Dans le plan présenté, on dit bien que les fonds européens sont censés être conditionnés au respect de la législation antidiscrimination de l'Union européenne. Et nous, c'est ce qu'on demande, c'est que l'ensemble des États membres respectent leurs engagements et les droits humains pour toutes et tous, sans discrimination. Les droits des personnes LGBTI font partie intégrante des droits humains et effectivement, on ne peut pas sacrifier les droits des personnes LGBTI pour l'économie de l'Union européenne. Je suis en contact avec pas mal de militants et de militantes sur place et eux, ils ont été particulièrement surpris par l'agenda, en fait, puisque ces amendements ont été proposés par le gouvernement en novembre et juste après la ratification du deuxième état d'urgence qui imposait des restrictions plus strictes au Covid-19. Et pour eux, ce moment n'est pas accidentel. Les autorités utilisent la restriction de la liberté de mouvement pour éviter toute contestation dans la rue. Et c'est pas la première fois que le gouvernement hongrois instrumentalise le Covid-19 pour s'attaquer aux droits des personnes LGBTI. Ils avaient fait exactement la même chose en s'attaquant à la reconnaissance juridique du genre en mars 2020.
Une deuxième panne technique pour Google en moins de 48 heures. Cette fois, hier, les usagers de la messagerie Gmail ont vu les sites ralentir. Plus d'1,5 milliard utilisateurs ont pu être concernés par cette panne. Google, qui par ailleurs réagit au projet d'une nouvelle réglementation européenne, réglementation qui vise à limiter le pouvoir des géants du numérique. Le texte économique est dissuasif avec des sanctions en cas de non-respect. Les GAFA sont divisés à ce propos et Google est en tête, Sébastien Paour.
Le moteur de recherche dit son inquiétude face à des propositions qui viseraient seulement une poignée d'entreprises. Et le vice-président des relations institutionnelles monde de Google, Karan Bhatia, met en garde dans un communiqué. Une telle législation rendrait plus difficile le développement de nouveaux produits susceptibles de soutenir les PME en Europe. Facebook salue à l'inverse des textes qui vont dans le bon sens pour préserver ce qui est bon sur Internet. Et un porte-parole du géant des réseaux sociaux en profite pour tacler Apple. Le créateur de l'iPhone utilise son pouvoir, selon lui, pour nuire aux développeurs et aux consommateurs et aux grandes plateformes comme Facebook. Pas de commentaire pour l'heure de la marque à la pomme, ni du géant de la vente en ligne Amazon ou de son rival chinois Alibaba. L'association de l'industrie de l'informatique et des communications, qui défend les intérêts des grands du secteur, espère de son côté que le futur texte ciblera les comportements problématiques plutôt que la taille des entreprises.
Sébastien Paour pour France Culture. La météo en France métropolitaine, avant l'arrivée de nouvelles pluies par l'ouest aujourd'hui, le temps s'annonce plus sec dans la matinée. Comptez 6 à 13 degrés du nord au sud. 6h40, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, selon un rapport diffusé par le Center for Global Policy, un demi-million de Ouïghours sont soumis au travail forcé pour la récolte du coton dans le Xinjiang.
Oui, des révélations qui interviennent alors que la Cour pénale internationale vient de se déclarer incompétente pour les accusations de crimes contre l'humanité et de génocide portés par des Ouïghours en exil, la Chine n'étant pas signataire du traité de Rome qui a institué la CPI. Courrier international rappelle que plus de 20% du coton produit dans le monde vient de cette province, soit 84% du coton produit en Chine, et que le gouvernement américain en a interdit l'importation alors que la Chine fournit un tiers des vêtements en coton vendus aux États-Unis. Au Congrès, 3 projets de loi visent le travail forcé des Ouïghours, mais l'intense lobbying de certaines entreprises les a jusqu'ici repoussés. Nike et Coca-Cola notamment, mais aussi Apple, avance que cette législation pourrait provoquer des ravages dans leur chaîne d'approvisionnement. L'anthropologue allemand Adrian Zenz est l'auteur de ce rapport. Il enquête depuis des années et fait l'objet d'une violente campagne de diffamation du régime chinois. Libération a suivi son travail de fourmi pour faire parler les sources. Exemple, les appels d'offres pour la construction des camps repérés dans un océan d'informations. La dernière livraison de la revue Esprit consacre un dossier complet à l'empire du milieu. Judith Geng et Mei Yang font le point sur la politique de sinisation qui vise également les Tibétains et les Mongols. Les méthodes d'assimilation forcée se généralisent, conduisant à des formes de génocide culturel. Les langues traditionnelles, mais aussi les pratiques religieuses, le style architectural des mosquées, des temples, rien n'est épargné. On a même pu voir des moines taoïstes et bouddhistes en uniforme de soldats chantant des chansons révolutionnaires devant le portrait de Xi Jinping. Les journalistes soulignent que, outre le million de Ouïghours internés dans des camps sans la moindre poursuite judiciaire, c'est l'élite et notamment les intellectuels qui est visée. Abdulkerim Rahman, professeur à l'université de Xinjiang, spécialiste de la littérature ouïghour, a passé un an dans l'un de ses camps et il est mort en août 2020, peu de temps après sa sortie. Tashpolat Tiyip, ancien président de l'université, a été condamné à la peine capitale en 2018 et on ne sait pas aujourd'hui s'il est mort ou vivant. Une situation qui ne fait qu'alimenter le courant indépendantiste chez les Ouïghours comme chez les Tibétains. Dans ce numéro de la revue Esprit, Justine Rochaud retrace la chronologie précise de la pandémie Covid en décrivant les failles du système, le déni initial et les dissimulations du régime. Et elle souligne ce paradoxe, les facteurs qui ont contribué au manque d'anticipation de l'État, politisation de la santé publique, structure bureaucratique, sont également ceux qui ont permis de réagir une fois l'épidémie reconnue. Elle cite notamment le cas de l'armée qui a dépêché près de 4000 médecins à Wuhan, munis d'équipements médicaux, ou encore les communautés de quartier pour appliquer les consignes de confinement, organisant les livraisons de repas et de médicaments, un outil efficace et parfois effrayant de contrôle social. L'hebdomadaire Le 1 fait escale à Wuhan, la métropole globalisée avec son hub aérien, ses lignes internationales, sa gare TGV, sa sidérurgie lourde, son industrie automobile et ses universités, ses centres de recherche en biologie, son marché aux animaux sauvages. La ville a effacé toutes les traces qui auraient pu permettre de comprendre l'origine de l'épidémie dont elle a été l'épicentre, affirme François Godement. Le mystère est renforcé par le refus réitéré de Pékin d'accepter que les experts de l'OMS s'y rendent pour enquêter. Le pouvoir chinois a maintenu jusqu'au 20 janvier qu'il n'y avait pas de preuve de la transmission du virus de l'animal à l'être humain, ce qui est stupéfiant, affirme François Godement. Et l'OMS a fait semblant de le croire, ce qui est pire. L'historien et spécialiste de la Chine relève que l'interdiction des liaisons aériennes intérieures à partir de Wuhan a eu lieu avant celle des vols à destination de l'étranger. Et il souligne ce paradoxe. La Chine, premier pays frappé par l'épidémie, est la seule puissance économique à finir l'année 2020 avec un taux de croissance positif. C'est que le modèle chinois est l'inverse d'une autre, explique-t-il. Nous avons soutenu la demande, eux soutiennent l'offre. Donc la reprise chinoise a été tirée par la demande étrangère, puisque nous avons toujours les moyens d'acheter grâce aux injections de liquidités massives aux États-Unis et en Europe et au plan de relance. (Rire) 6h45 sur France Culture. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques.
C'est l'heure des enjeux internationaux au sommaire aujourd'hui. Le prix Sakharov est remis ce jour à l'opposition biélorusse.
Oui, le Parlement européen l'a décerné à l'opposition démocratique biélorusse dans son ensemble, les hommes et les femmes qui manifestent depuis 18 semaines pour le départ d'Alexandre Loukachenko, depuis en fait la présidentielle du mois d'août. C'est Svetlana Tikhanovskaya qui se le verra remettre en leur nom tout à l'heure à Bruxelles. Si l'opposante exilée en Lituanie est considérée à l'étranger comme la figure de proue de l'opposition biélorusse, l'est-elle toujours aux yeux des opposants de l'intérieur? Bonjour Anna-Colin Lebedev.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à Paris-Nanterre, spécialiste de la Russie post-soviétique. Anna-Colin Lebedev, au bout de 4 mois de mobilisation, à quoi ressemble désormais ce qui était la grande manifestation du dimanche en Biélorussie?
La protestation est toujours là en Biélorussie. Elle a un petit peu changé de forme et de modalité. C'est une suite, en fait, de la répression exercée par le pouvoir. Les grandes marches du dimanche qu'on a eu l'habitude de connaître au début de l'automne, eh bien, sont devenues trop dangereuses pour les manifestants. Trop d'interpellations, trop de violences policières. Donc, désormais, la stratégie, eh bien, c'est de se réunir par quartier. C'est de sortir à des endroits inattendus pour les forces de l'ordre, à sortir par petits groupes pour minimiser en fait le risque pour les manifestants. Mais les protestations sont toujours là, comme en témoignent les chiffres des interpellations et des manifestants en prison.
Combien aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, selon l'ONG Vesna, on a eu au total, en fait, depuis le début des manifestations, près de 30 000 personnes interpellées, dont 4 000 en novembre. Ce chiffre-là, par exemple, nous montre ce qui se passe cet automne en Biélorussie. Et le week-end dernier, 300 personnes interpellées, 146 prisonniers politiques aujourd'hui comptabilisés dans les prisons biélorusses.
Et surtout à Minsk, où le mouvement s'est maintenu aussi en dehors de la capitale.
Alors, à Minsk, le mouvement est plus massif, hein, la ville est plus grande, il est plus facile d'être anonyme, mais on voit très régulièrement des manifestations, des piquets organisés par des manifestants dans des villes de province, où souvent, en fait, ils vont aujourd'hui cacher leur visage, une fois de plus, pour ne pas risquer la répression.
Au début du mouvement, des mouvements sociaux, des blocages avaient touché les usines. La dernière fois que l'opposition a lancé une grève générale, c'était fin octobre. Est-ce qu'elle serait en mesure, à nouveau, de bloquer le pays? Est-ce que les blocages continuent dans les usines ou est-ce que les leaders en ont été chassés?
Alors, dans les usines, les mouvements de protestation continuent. Cependant, Loukachenko a assez rapidement mis des moyens de pression sur les employés de ces industries biélorusses par des menaces de licenciement, des licenciements, des menaces pesant sur les familles. Il faut comprendre qu'en Biélorussie, en fait, les grandes industries sont souvent dans des villes de taille moyenne où il est important d'avoir un emploi au sein de cette industrie. Les gens y sont attachés également. Ils ne souhaitent pas tout cassé aujourd'hui. Donc on a effectivement une grogne, mais pas de mobilisation d'ampleur au sein des usines.
Alors c'est vraiment à tous les opposants hommes et femmes de Biélorussie, opposition démocratique, dit le Parlement européen, qui est remis le prix Sakharov aujourd'hui, mais en la personne de Svetlana Tikhanovskaya. C'est elle qui se le verra remettre tout à l'heure à Bruxelles. Est-ce que c'est elle toujours le personnage central de la contestation, tel que nous le voyons, nous, depuis l'Europe de l'Ouest? Est-ce que pour les Biélorusses restés en Biélorussie, qui manifestent ce dont vous venez de nous parler, est-ce que c'est toujours elle qu'ils écoutent, qu'ils suivent et dont ils suivent les appels?
Alors, Tikhanovskaya continue à être respectée par les protestataires en Biélorussie. Elle se déclare elle-même leader du peuple biélorusse, mais je dirais que pour les Biélorusses qui sont à l'intérieur du pays, elle est davantage leur porte-parole à l'étranger. Elle joue un rôle pour eux extrêmement important, celui de représenter la contestation en Europe de l'Ouest et à l'étranger en général, de ne pas laisser le monde oublier la Biélorussie. Cependant, à l'intérieur du pays, il n'y a pas de donneur d'ordre. La protestation est extrêmement acéphale. Elle se veut désorganisée. Elle se veut sans leader. Pourquoi? Parce que, eh bien, dès qu'un leader est identifié, il va être immédiatement la cible des répressions de la part du pouvoir et mis en prison. Donc, il n'y a pas véritablement aujourd'hui de personnalité aussi qui émergerait en Biélorussie, qui serait les concurrents de Tikhanovskaya. C'est authentiquement le peuple biélorusse dans ses différents groupes qui protestent et non pas des leaders qui porte la protestation.
Elle porte donc la protestation à l'étranger, comme vous dites, Anna Colin Lebedev. Hier et aujourd'hui, elle est à Bruxelles. Avant-hier, elle était à Berlin. D'ailleurs, son entretien est à écouter sur le site de France Culture. Ludovic Piétenu l'a rencontré. Lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron, également fin septembre, elle lui avait fait part de sa volonté de discuter aussi avec les Russes. Donc, quelle est sa stratégie à Svetlana Tikhanovskaya? Est-ce que c'est de discuter avec tous ceux qui veulent discuter? Est-ce qu'elle regarde quand même de plus en plus vers Moscou, comme le disent certains qui rappellent par exemple que son équipe sur place en Biélorussie ne serait pas contre le projet d'union des deux pays ou au moins des relations économiques très poussées.
Tikhanovskaya a effectivement exprimé dès le début, comme d'ailleurs l'ensemble des opposants, la volonté d'inclure Moscou dans les pourparlers sur la transition politique et le départ de Loukachenko. Il y a deux questions derrière. La première question, c'est que Moscou ne souhaite pas parler à Svetlana Tikhanovskaya pour plusieurs raisons. D'une part, parce que on ne parle pas côté russe à des opposants issus de la foule et du peuple. Là, ce serait donner un mauvais signal sur les possibilités, notamment interne en Russie, de contestation du pouvoir en place. Et d'autre part, en fait, Moscou souhaiterait avoir de la prévisibilité, souhaiterait avoir la main sur ce qui se passe en Biélorussie. En négociant avec quelqu'un comme Tikhanovskaya, qui parle de plus en plus à l'Occident, eh bien, ça devient de moins en moins confortable pour Moscou. Hein, Moscou ne contrôlerait pas exactement la situation. Donc ça m'étonnerait que Tikhanovskaya soit une personnalité qui soit jugée digne de pourparler par le Kremlin. Mais par ailleurs aussi, je pense qu'il faudrait souligner que, les opposants eux-mêmes, qui étaient plutôt pas anti-russes, pas tournés contre la Russie, vraiment préoccupés par leur situation interne à la fin de l'été et au début de l'automne, aujourd'hui deviennent de plus en plus anti-russes, ou en tout cas anti-Kremlin, pas anti-russes en tant qu'anti-population russe.
Comment on le voit? C'est dans les cortèges, de plus en plus des banderoles anti-russes, ou ce sont des prises de position publiques?
Il n'y a toujours pas de banderole qui parle de questions internationales. Il n'y a toujours pas de drapeau européen. Il n'y a pas de drapeau russe non plus. Il n'y a pas de banderole anti-Poutine dans la foule, en tout cas pas massivement. Ce qu'on voit, c'est des enquêtes d'opinion publique qui sont menées par des instituts de sondage indépendants. Ces enquêtes nous montrent une diminution vraiment très très claire de la sympathie à l'égard de la Russie et une diminution très très claire du nombre de personnes qui souhaiteraient, qui était déjà pas très élevé, qui souhaiterait le rattachement de la Biélorussie à la Russie. Donc clairement, on a vraiment un éloignement de Moscou qui va de pair avec la protestation et qui va de pair avec la stratégie de Poutine de ne pas forcer Loukachenko à partir.
Et que représente alors l'opposition pro-russe à Loukachenko, ou que l'on considérait comme telle, incarnée par celui qui fut son principal adversaire à la présidentielle, Viktor Babariko, ex-président du conseil d'administration d'une banque liée au géant russe Gazprom. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Lui est en prison, Alexandre Loukachenko est allé lui rendre visite mi-octobre. On se demande si c'était pas sur volonté de Vladimir Poutine. Enfin, c'est assez flou cette visite.
Alors effectivement, à un moment donné pendant l'automne, Alexandre Loukachenko s'est rendu en prison où il a rencontré une dizaine de membres de l'opposition, dont Viktor Babariko et son fils, mais ils ne sont pas les seuls, hein, c'était d'autres opposants également emprisonnés. C'était une drôle de visite effectivement, on l'a toujours pas décodé jusqu'à la fin, on a l'impression que il voulait négocier une libération des prisonniers politiques contre un soutien à une transition douce hein, qui lui laisserait les cartes en main. Ça n'a pas très bien marché, ça n'a pas du tout marché côté Babariko. Alors, je dirais que pour évaluer la place de ce personnage et d'une opposition pro-russe, déjà, première chose, il n'est pas clair qu'il ait existé une opposition vraiment très très clairement pro-russe. On a effectivement placé Babariko du côté des personnes proches de la Russie, mais la banque qu'il dirige, qui est liée à Gazprom, était en conflit avec l'État biélorusse. Ce conflit semble résolu aujourd'hui. Et puis, je dirais, les cartes ont été rebattues. Babariko est resté très loin de la scène politique du fait de son emprisonnement. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'autres éléments qui vont déterminer eh bien, le choix des Biélorusses.
Anna Kolar-Lebedev, que peut obtenir de l'étranger, quel soutien peut obtenir notamment Svetlana Tikhanovskaya, qui est en ce moment à Bruxelles, qui demande à ce que soit levée, par exemple, l'obligation de visa pour les opposants en danger. Or, depuis jeudi dernier, la Biélorussie a fermé ses frontières. Les opposants ne peuvent plus sortir. Certains peuvent rentrer. Officiellement, c'est pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, mais on ne peut plus sortir.
Oui, effectivement, c'est assez paradoxal. Généralement, quand on lutte contre une épidémie, on limite les entrées et non pas les sorties. Cette décision a d'ailleurs beaucoup secoué les Biélorusses. Je dirais que c'est la décision du pouvoir politique qui a eu le plus d'effet de peur et de sensation de fermeture du pays depuis le début de la protestation. Plus même, je dirais, que les violences policières, ou du moins autant que les violences policières. Là, Tikhanovskaya joue pleinement son rôle, en fait, de soutien international aux opposants, qui sont déjà effectivement massivement présent en Lituanie, certains vont être en Pologne, mais il est vrai qu'il y a une chose dont les Biélorusses ont peur, c'est de se retrouver derrière une sorte de rideau de fer enfermé dans leur pays et que ce qui se passe à l'intérieur ne soit plus visible. Tikhanovskaya apporte cette visibilité et c'est déjà extrêmement important, mais le jeu se joue beaucoup à l'intérieur du pays.
Voilà, et elle demande en attendant un renforcement des sanctions contre Alexandre Loukachenko et son clan. La Suisse a rejoint les pays de l'Union européenne pour mettre en œuvre ces sanctions. Merci beaucoup Anna Kolar-Lebedev d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Après quelques semaines de confinement et à la veille de Noël, le recul des contaminations au Covid marque un pas.
Sur France Culture, la méthode scientifique de Nicolas Martin.
Comment allons-nous traverser les fêtes? Un nouveau confinement est-il inéluctable en janvier? Pourquoi l'épidémie repart-elle aussi rapidement? L'épidémiologiste Dominique Costagliola, Grand Prix INSERM 2020, est notre invité tout à l'heure pour répondre à toutes ces questions.
La méthode scientifique du lundi au vendredi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Chaque Français, Guillaume, est désormais ministre.
Oui, ministre de la Santé. C'est depuis hier, Julie. Jusqu'ici, chaque Français était épidémiologue. Mais hier, donc, on a tous été promus ministre de la Santé, chargé de la stratégie de lutte contre le virus. Bon, pour ses propres administrés. Car figurez-vous qu'un dénommé Charlemagne a eu l'idée folle d'inventer l'école, mais l'un de ses lointains successeurs a eu l'idée belle de la rendre optionnelle. Jeudi et vendredi prochain, l'école est facultative. Chaque famille a désormais la possibilité d'imaginer sa propre stratégie de lutte contre le virus. C'est la fin du jacobinisme médical, un peu comme si Pasteur avait envoyé un kit à chaque Français, une éprouvette, une seringue, et allez-y, allez, débrouillez-vous. Chaque foyer met donc à profit le couvre-feu pour planifier ses fêtes de Noël. Rétro-planning pour les dates de test, PCR antigénique, dîner dans la cuisine. Pour les grands-parents, une demi-bûche goûtée dans le jardin avec l'oncle comorbide. Est-ce que ça vaut le coup d'ailleurs de lui faire un cadeau sachant que son pupitre va bientôt s'éteindre? Zoom avec les plus atteints, ça mange pas de pain. Ils sont incapables de servir d'un ordinateur. Qui faut-il inviter et quand, Julie? Franchement, un beau-frère agent immobilier avec toutes les personnes qu'il voit chaque jour, est-ce que c'est pas un peu risqué de le convier? Sachant que s'il y en a un qui risque d'être porteur, bah c'est bien lui. C'est vrai, bon, difficile de faire confiance à cet homme-là. Chaque famille doit élaborer une stratégie médicale, voire une tactique médicale. Je me fais tester, je ne vais manger chez tes parents que si je suis positif. Après tout ce qu'ils m'ont offert, ils méritent bien que je leur refile ce virus. Et c'est ainsi que l'on voit se dessiner le premier Noël tactique de l'histoire de l'humanité, tactique ou stratégique, vous choisirez. Jusqu'à présent, pendant les fêtes de Noël, on se disputait sur des sujets politiques approximatifs, la paix au Proche-Orient, le rétablissement de la peine de mort. Avec ce Noël, chaque famille va enfin pouvoir se déchirer avant autour de vraies controverses stratégiques.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Alors que Donald Trump conteste toujours le résultat des élections présidentielles, Joe Biden prépare son arrivée à la Maison Blanche. Comment le président démocrate peut-il gouverner sur les ruines du trumpisme? On va en parler aux environs de 7h40 en compagnie de Jean-Éric Brana et Dan Desine, deux spécialistes des États-Unis. 7h sur France Culture, excellent réveil à tous.